Bonsoir. Des grands noms de l'industrie qui passent sous pavillon étranger. Et l'actualité nous montre régulièrement des exemples, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Tiens, prenez par exemple Alstom, hein, dont la branche énergie a été achetée par General Electric. Les transports fusionnés avec Siemens. Alcatel qui passe sous la coupe de Nokia. On a les chantiers STX également qui maintenant évoluent dans le giron de l'italien STX. Alors, bon, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'il faut s'en scandaliser. Certains y voient la vie normale des affaires, quand d'autres crient au dépeçage. Alors, faut-il s'abriter derrière une notion plus ou moins large de secteur stratégique, au risque que le pays soit moins attractif? Alors, comment protéger nos fleurons industriels? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et sur le plateau des décodeurs de l'écho, ce soir, il y a Guillaume Casbarian. Il est député La République En Marche du département de l'Eure-et-Loire. C'est l'un des deux rapporteurs de la commission d'enquête sur la politique industrielle de la France. Quand on parle de grands dossiers industriels, voici Mathieu Pechberti, tout naturellement, grand reporter à BFM Business. Jean-David Chamboredon, co-président de France Digital, qui fédère des acteurs de l'entrepreneuriat numérique, des startups, des investisseurs également. Il est investisseur lui-même à la tête d'Isaïe. Et puis Jean-Michel Quatre Points, journaliste, auteur de Alstom, scandale d'État. Oui, on reviendra sur le cas Alstom, dont la branche énergie avait été rachetée par l'américain GE il y a 4 ans. On y reviendra tout au long, évidemment, de ces décodeurs de l'écho. Alors, cette commission d'enquête sur la politique industrielle de la France, 10 axes de travail, 50 propositions concrètes, on va les découvrir au fur et à mesure, hein. 6 mois d'enquête, des dizaines d'auditions, donc des personnalités politiques, anciens ministres par exemple, on verra, on parlera de Montebourg, des dirigeants d'entreprise, des banquiers, vous avez visité des sites industriels, Guillaume Casbarian, on verra au fur et à mesure donc ce qu'il en ressent. C'était quoi les problématiques? Sur quoi vous planchiez justement? Qu'est-ce qui a motivé la constitution de cette commission d'enquête parlementaire?
Alors comme vous l'avez rappelé, ce sont des sujets qui préoccupent les Français et donc le groupe Les Républicains a souhaité la création de cette commission d'enquête pour étudier les cas emblématiques que vous avez cités, Alstom, STX, Alcatel.
C'était quoi le fait déclenchant justement?
Le fait déclencheur a été, je pense, côté républicain, la partie Alstom-Siemens qui a été le déclencheur, mais qui tout de suite a ouvert un bilan historique très complet qui remonte jusqu'à l'affaire, ou en tout cas le rachat, par General Electric.
Donc la branche
on a fait tout un travail
de 2014.
Oui, 2014. Donc on a eu tout un travail historique où on a décortiqué ces opérations, on a essayé de savoir si économiquement elles étaient fondées, on a essayé de savoir quel était le rôle de l'État et quels avaient été les outils de l'État à l'époque, et puis bien évidemment, c'est un rapport, il faut que ça serve. Donc on a formulé des propositions et vous l'avez dit, on a 10 axes de travail et une cinquantaine de propositions pour une politique industrielle conquérante.
C'est quoi les grandes questions qu'on doit se poser? On essaiera d'y répondre après, mais Mathieu Pechberti, c'est quoi les grandes problématiques quand on parle de politique industrielle française?
Faut déjà que l'État se pose la question de ce qu'il veut. Comme toujours, on est dans un État plutôt réactif qu'actif. Et sur des dossiers comme Alstom, finalement, et puis si on remonte bien avant, on avait vu à un moment donné un Premier ministre, Dominique de Villepin, s'agiter pour défendre nos yaourts. Bon, il n'y a pas d'ironie derrière ça.
Il y avait des rumeurs à l'époque, Danone, de rachat faire l'objet de Danone par Opel. Voilà.
Et puis il y en avait eu sur aussi Suez, par l'italien Enel. Bref, il y a un moment donné, il faut que l'État définisse ce qu'il considère comme souverain ou pas souverain. Voilà. Et ça... ça fait 20 ans qu'on pose une question, et puis ça fait 20 ans que l'État dit oui, on va s'en occuper, et puis il attend qu'il y ait un gros boom, et donc quand il y a un gros boom comme Alstom, voilà. Il dit, Alstom, c'est un fleuron français, et pourquoi Alstom est un fleuron? Enfin, je veux dire, c'est un grand nom industriel, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qu'est-ce qui fait que c'est important pour l'État, pour les Français, pour le pays? Voilà. Et ça, c'est des questions, Emmanuel Macron a promis qu'il allait s'y atteler. Je crois que c'est très très lent, mais vous voyez, par exemple, petit exemple, la question que Bruno Le Maire est en train de soulever doucement, c'est est-ce que l'État a intérêt à rester dans la filière automobile? Oui. Souvenez-vous, Arnaud Montebourg avait fait tout un pataquès pour sauver Peugeot.
Pendant 14%.
Après, il y a des questions d'emploi, et évidemment qu'elles sont importantes. Mais encore une fois, voilà, est-ce que l'État a vocation? Est-ce que c'est important pour la France que l'État conserve des parts dans Renault et Peugeot, alors que beaucoup de Français roulent dans les voitures étrangères. Alors Bruno Le Maire soulève par exemple la question du développement de la voiture autonome et du fait que si on ne fait rien, on va se retrouver avec des voitures Google dans 20 ans en France. Voilà, ça c'est un sujet. Mais est-ce qu'il y a besoin là-dedans Renault ou dans PSA, dans Peugeot ? Voilà, ça, il faut à un moment donné que l'État s'y attelle. Et les questions que se pose Bercy, c'est plutôt combien je vends par an et combien je dépense et donc combien il reste dans les caisses. Vous voyez, ça reste quand même des questions qui sont un petit peu limitées.
Terre à terre, voilà. Jean-Michel Quatrepoint et Jean-David Chamboredon, les grandes problématiques, comment renforcer la politique industrielle française. Quelle bonne question on doit se poser.
Le problème, c'est pourquoi cette commission d'enquête parce que, et pourquoi Alstom? Parce qu'Alstom est emblématique. Alstom, c'était tout ce qui restait du gaulo-pompidolisme. Parce que Alstom, c'était Alcatel-Alstom autrefois, et c'était, on a construit Alcatel-Alstom pendant 60 ans. Avec énergie, le nucléaire, stratégique s'il en était, le ferroviaire, le TGV, avec les câbles, les télécommunications, Alcatel, et STX, les chantiers de l'Atlantique. Et effectivement, avec l'opération General Electric, Alstom Power et Siemens, eh bien effectivement, Alcatel-Alstom, on avait mis 60 ans à le faire et on aura mis 20 ans à le défaire. Alors ensuite, il y a des responsabilités, effectivement. Il y a des choses qui sont inéluctables, le monde évolue, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avions un champion au début des années 90, c'est un champion mondial. Et aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus rien, même si il reste des actifs, des technologies, etc. Et c'est ça qui a qui a fait l'inquiétude.
Ce que nous disait très bien avec Guillaume Casbarian.
Quand Péchiné est parti,
Bon, donc c'était Alcan, le Canadien Alcan.
Bon, et quand Lafarge est parti avec Holcim, ça a moins bougé parce que ces secteurs ne sont pas considérés comme éminemment stratégiques. En revanche, effectivement, Alcatel-Alstom, ça touchait au cœur du gaulo-pompidolisme.
Faudra qu'on
et même du giscardisme. Ouais, ouais. Et même du giscardisme. Ouais, ouais. Puisque le programme nucléaire, c'est sous Giscard, et le programme téléphone, c'est sous Giscard.
Et le TGV, c'était Giscard.
Exactement.
Il a impulsé, inauguré par Mitterrand en octobre 80, le Paris.
Donc c'est ça qui a remué les foules, soyons clairs.
Bon, deux choses, hein. On essaiera de savoir ce que c'est qu'un secteur stratégique, bien sûr. On a encore le temps. Et puis on reviendra aussi sur le, feuilleton Alstom, ce que vous avez enquêté. Qui est responsable de la vente? Enfin, est-ce qu'on doit parler d'ailleurs de responsabilité? Enfin, en tout cas, comment Alstom a été vendu donc à General Electric? On y reviendra dans 15-20 minutes. Jean-David Chamboredon, je termine mon tour de table avec vous donc. Sur les grandes problématiques.
De politique industrielle dans un monde dans lequel j'évolue, qui est complètement bottom-up, qui vient de petites start-up, qui innovent et qui essayent de grossir, c'est évidemment un sujet qui est un peu loin de mes préoccupations quotidiennes. Par contre, la logique du contrôle des investissements étrangers en France est quelque chose sur lequel on a une extrême sensibilité. Et ça date d'ailleurs du même ministre que l'histoire Alstom, de l'affaire Dailymotion, où M. Montebourg avait bloqué la vente de Dailymotion à Yahoo. Alors, cette histoire, elle était très particulière. Dailymotion était une filiale d'Orange. L'État est actionnaire d'Orange. Potentiellement, l'État aurait pu bloquer via le conseil d'administration d'Orange. Cette transaction, ça a été fait sur le devant de la scène, on va dire. Et moi, je me rappelle du ridicule absolu que la tech française, la French Tech, était naissante à l'époque.
Oui,
on commençait à parler du mot.
C'était embryonnaire.
Et moi, je recevais des emails de mes confrères américains ou britanniques disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où une micro-start-up est bloquée par un ministre dans une transaction ?» Et puis, si on revient ensuite sur ce qui s'est passé ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dailymotion aujourd'hui qui dépérit au sein de Vivendi. Au moins, chez Yahoo, ils auraient été dans l'Internet, si je puis dire.
Comme vous dites.
Voilà. Et il y aurait eu quelques synergies.
Est-ce que vous avez l'impression que les fleurons français sont particulièrement une cible de choix? C'est vrai qu'on a cité, donc, Alstom, on a cité Alcatel, vous avez rappelé Lafarge-Holcim, bien sûr, Péchinet dans une autre période au début des années 2000. Est-ce que la liste s'accumule ou finalement c'est la vie des affaires, quoi? C'est une coïncidence. Allez, le député Guillaume Casbarian.
Déjà, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit sur la partie Dailymotion. On peut avoir tendance à faire souvent cocorico et se focaliser sur la nationalité et le passeport de l'investisseur. Et parfois, ça se fait au détriment de la stratégie de l'entreprise, des emplois de l'entreprise et de la pérennité de l'entreprise. Et sur Dailymotion, moi, j'ai le sentiment personnel qu'effectivement, on a un petit peu fait cocorico en disant on veut pas que ça soit cédé à des Américains. Parce qu'on se préoccupait de la couleur de passeport des Américains. Et au final, est-ce que ça a été bénéfique pour l'emploi? Est-ce que ça a été bénéfique pour la stratégie de l'entreprise? Pas vraiment. Il y a une sorte de focalisation sur le passeport ou la nationalité de l'investisseur, mais qui est parfois même le cas sur General Electric. Je rappelle que General Electric, c'est une entreprise qui s'est installée en France depuis plus de 100 ans.
Tout juste, bien sûr.
Il y a 16 000 employés aujourd'hui de General Electric en France.
Et ils se trouvent où,
justement? Il y en a 11 000 dans la partie énergie. Donc, Belfort, ouais. Si vous voulez, quand on dit General Electric, c'est une entreprise américaine avec un passeport américain, écoutez, c'est quand même contestable pour une entreprise qui a quand même une certaine historique en France. Donc, c'est une question qui est assez sensible. Moi, ce qui m'importe de mon côté, c'est préserver les emplois industriels en France et préserver l'emploi en France, quel que soit le passeport et la nationalité de l'investisseur. Et c'est ça l'enjeu.
Mathieu Pechberti.
Non, mais écoutez, sur le sujet Alstom, les politiques de toute façon de l'époque, c'est en 2012, quand la gauche arrive au pouvoir, pouvaient savoir en tout cas exactement ce qu'il se passait. La question, c'est que quand M. Montebourg, et notamment dans le cadre de votre commission, dit que l'État a été mis sur le fait accompli, il attendait que le PDG d'Alstom à l'époque, Patrick Cron, lui passe un coup de fil, parce que c'est ce que font beaucoup de patrons, pour lui dire, Monsieur le ministre, j'ai une opération, et peut-être que ça serait mieux passé, mais c'est absolument symbolique. Le gouvernement avait tous les moyens de savoir quelle était exactement la situation d'Alstom.
Mais d'ailleurs, ce que vous dites est totalement vrai, puisqu'il y a une étude qui avait été commandée à l'époque d'Atté-Kearney, il y en a une deuxième de Roland Berger, on l'a vu pendant notre enquête, et le cabinet de Monsieur Montebourg était présent à la restitution du rapport d'Atté-Kearney. Donc, très honnêtement, le fait de dire « nous sommes tous surpris, nous ne savions pas qu'Alstom avait des problèmes »,
on va y revenir, etc. Vous savez quoi, ouais, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette affaire, Alstom, au travers de ce qu'elle a déclenché comme question. On reviendra sur le cas précis. Est-ce qu'on peut protéger les entreprises stratégiques? On parle de ça, on entend parler de ça depuis un instant. Oui, est-ce que Alcatel, Alstom, c'était du stratégique? Est-ce que ça faisait partie du patrimoine des Français? Comment on définit, comment est-ce qu'on précise justement, qu'est-ce que recouvrent ces entreprises stratégiques? À quoi se mesure la valeur stratégique d'une entreprise? Mathieu Pechberti, je suis sûr que si on fait un tour là de table sur les quatre, personne n'aura la même définition.
Puis ça évolue.
Bah oui.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je parlais de l'industrie automobile tout à l'heure. On peut considérer que l'automobile c'est stratégique parce que il y a beaucoup d'emplois. Mmh. Certes. Aujourd'hui, on se rend compte que le marché mondial de l'automobile, les États ne s'impliquent plus dedans. En revanche, tout ce qui concerne, par exemple, la cybersécurité, qui est en train de monter énormément, on peut se poser des questions. Vous voyez, le français Gemalto a été racheté par Thales. Thales est une entreprise où l'État est présent au capital. Donc on peut se poser la question, une entreprise comme Atos, voilà, est-ce qu'un jour on va se prendre
Atos est une entreprise stratégique aujourd'hui.
Voilà, mais ce qui veut dire, est-ce qu'un jour Atos pourrait être
dans laquelle l'État n'est pas présent.
Non, il y a Siemens qui est présent à 18%.
Exactement. Non, mais voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc il faut définir ce qui est souverain et stratégique. Et je crois que l'État, en dehors des grands secteurs comme la défense, par exemple, l'énergie, le nucléaire, etc.
Oui.
L'État n'arrive pas à avoir de réponse là-dessus. Ah. On peut considérer que l'agroalimentaire, compte tenu des différents scandales qu'il y a eu, l'affaire Lactalis, l'affaire Findus il y a quelques années, doit devenir, moi je le pense en tout cas, stratégique. L'agroalimentaire, excusez-moi, mais à Bercy, on s'en fout complètement.
Jean-Michel, 4 points.
Monsieur le rapporteur, vous vous souvenez quand on m'avait posé cette question?
En fait,
vous avez démissionné aussi.
Oui, bien sûr.
Ah, d'accord, très bien.
C'est sûr, mais nous avons fait des
Je vous avais répondu, la première responsabilité d'un gouvernement, c'est de pouvoir nourrir correctement sa population.
Oui, tout à fait, c'est ce que vous avez dit. Après, sur cette question essentielle, qui est une question clé.
Stratégique.
C'est une question qui est extrêmement complexe, et comme vous l'avez dit, autour de la table, on n'aura jamais la même réponse. Ouais, et si vous mettez les 577 députés ensemble, ils n'auront pas du tout la même réponse. Si vous demandez aux citoyens qu'est-ce qui est stratégique, ils n'auront pas la même réponse. C'est une définition qui est extrêmement complexe à aborder. Tout le monde a l'impression que tout est stratégique. Rapidement, quand on fait la liste, on arrive à tout le CAC 40 et à toutes les entreprises de toutes sortes, tous les secteurs, toutes les technologies. Tout peut rapidement devenir stratégique.
Même le luxe,
peut devenir stratégique, etc. Il faut différencier cette question qui est essentielle et qui est extrêmement complexe, qui évolue dans le temps, parce que les technologies d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc définir ce qui est stratégique à un instant T, c'est un exercice très difficile. D'ailleurs, certains pays ne le définissent pas. Aux États-Unis, il y a une définition extrêmement vaste. Et considérer ce qui est stratégique, ce que le président considère de stratégique, à un instant T. C'est extrêmement vaste, mais ça laisse libre cours à toutes les dérives protectionnistes.
Mathieu Pechberti, c'est vrai, quand on parle de protéger, est-ce que ça ressemble pas à du protectionnisme? Je vous poserai la question tout à l'heure.
Il y a deux ou trois ans, le PDG d'Accor était venu un petit peu sonner la cloche chez Emmanuel Macron pour qu'il l'aide à repousser les assauts d'un actionnaire chinois. Est-ce que Accor est stratégique pour la France? Est-ce que les hôtels Ibis et les hôtels Mercure sont stratégiques pour la France? Franchement, je ne le pense pas. Édouard Philippe était une visite de site du groupe L'Oréal il y a quelques semaines, parce qu'il y avait des questions. Voilà. Est-ce que, je le prends de manière un petit peu ironique, mais est-ce que les
L'Oréal, on va juste expliquer pourquoi, parce qu'il y a Nestlé qui éventuellement voudrait mettre la main dessus, c'est ça?
Oui, ou que Nestlé pouvait se, au contraire, vendre à un autre, et en fait, le sujet c'était pas L'Oréal, puisqu'en fait, L'Oréal n'est pas stratégique pour la France. Il y a une histoire familiale extrêmement importante, les Bettencourt, c'est partie de l'histoire de France, très bien. Mais on s'en fiche. Et le sujet, c'était que L'Oréal était actionnaire de Sanofi, et là, c'est important. On a le premier laboratoire quasiment européen, en tout cas d'Europe continentale, en France. L'État n'a pas 1% ni 1 euro du capital. Et si Sanofi était racheté par un étranger, je veux dire que les conséquences, 1 pour la santé, 2 pour la sécurité sociale, seraient immenses.
Les prix des médicaments. Et
l'État pourrait prendre quelques pourcents du capital de cette société pour repousser. Ce que je veux dire, c'est que l'État attendra d'être mis sur le fait accompli, par exemple, chez Sanofi, pour dire « Ah non, on peut pas ».
C'est horrible.
Mais oui, mais ça fait 20 ans.
Alors, c'est quoi justement, avant qu'on voit si on peut faire plus, l'arsenal actuel, il existe un décret, une sorte de filtre pour les investissements étrangers en France. Qu'est-ce qui comprend ce décret, Mathieu Pelperti? Il est piloté par qui? Il y a des conditions qui sont posées. Qu'on vérifie?
C'est Guillaume Casbarian connu.
Vous avez aujourd'hui un décret qui date de 2014, même qui avait des sources même plus anciennes, qui définit des secteurs stratégiques pour la France. Et donc, en quelque sorte, la France a déjà répondu depuis 2014 à quels sont les secteurs stratégiques. Nous, ce qu'on dit dans nos préconisations, c'est qu'il faudrait rajouter...
Avant de dire ce que vous dites dans votre
préconisation, vous avez les télécoms, l'énergie...
Ce décret, le contrôle, il est efficace? Qu'est-ce qu'on vérifie?
Il y a deux choses.
Je suis une entreprise étrangère qui veut mettre la main sur, alors j'en sais rien, une entreprise minière française, par exemple.
Il faut distinguer deux choses. Qu'est-ce qui est considéré comme rentrant dans le cadre des entreprises stratégiques? Et ensuite, le processus de traitement quand vous êtes considéré comme stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la question? Qu'est-ce qui est stratégique? Aujourd'hui, il y a une réponse aujourd'hui sectorielle. C'est le décret de 2014.
Ce qu'on dit
à travers notre commission d'enquête et le rapport que j'ai remis tout à l'heure, c'est qu'il faut rajouter un prisme de technologie, qui sont des technologies sensibles ou qui peuvent le devenir, par exemple liées à l'intelligence artificielle, par exemple le nanotechnologie, le spatial, les semi-conducteurs, etc. En faisant attention, encore une fois, ne pas tomber sur du protectionnisme, parce que dans quelques années, toutes les entreprises vont avoir recours à du stockage de données, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on propose aussi, c'est d'avoir des questions précises, des cas d'usage spécifiques qui font qu'on peut se dire l'État devrait regarder ce qui se passe.
Juste, je vais donner la parole à Jean-David Chamboret, donc qui n'est évidemment pas d'accord avec vous dans un instant, mais ce décret, il a été efficace, il a permis d'empêcher certaines mainmises étrangères sur des entreprises françaises.
Alors, déjà, l'objectif n'est pas, quand vous avez défini ce qui est stratégique, l'objectif n'est pas forcément de bloquer l'investisseur.
Mais de regarder.
L'objectif est de regarder, contrôler, conseiller, fixer des conditions et demander des engagements. C'est ça l'objectif. Donc ça mène pas du tout forcément à un blocage in fine. Vous me demandez l'efficacité. Depuis quelques années, ce décret a fonctionné puisque chaque année, Bruno Le Maire l'a annoncé quand on l'a auditionné, une centaine d'investissements français sont étudiés chaque année par le prisme de ce décret. Et donc, il y a un processus qui se met en place avec un bureau à Bercy qui vérifie les conditions, demande éventuellement des engagements et, in fine, autorise, dans la grande majorité des cas, les opérations. C'est un processus de filtrage et d'information qui n'aboutit pas systématiquement à un blocage. D'ailleurs, les cas de blocage sont très peu nombreux.
Il y a eu des cas de blocage de mémoire ou pas, Mathieu Pelperti?
Il y en a quelques-uns, des petits, mais il n'y a pas eu de gros blocages.
Il y a eu, si vous voulez, quand l'État montre un peu les muscles, ça peut faire fuir certains investisseurs. Donc,
il n'y a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de la procédure
pour in fine bloquer.
Sans bon.
Mais ça, c'est quelque chose qui est commun partout. Aux États-Unis, où on a les statistiques publiques, il y a seulement eu, dans l'histoire du CFIUS, qui est l'équivalent de notre arsenal,
le comité pour l'investissement étranger aux États-Unis.
Voilà, il n'y a eu que 4 cas de blocage dans l'histoire des États-Unis.
Ah oui?
Oui. Et donc, eux étudient 200 cas à peu près par an.
Ouais.
Nous, on en étudie une centaine.
Notamment les ports convoités par les Chinois.
Plus récemment, il y a eu aussi des affaires avec des entreprises convoitées par des Chinois où le président a dit « je bloque in fine ». Mais les cas de blocage in fine sont relativement rares. Et j'allais dire, tant mieux, parce que on l'oublie, parce que dans nos discussions, on l'oublie, mais il est très important d'attirer des investisseurs étrangers en France. Il y a deux semaines, Bruno Le Maire était chez Cisco à Issy-les-Moulineaux pour parler des bons chiffres des investissements.
Business France, le rapport
exactement,
Business France,
oui, on en a consacré
un décodeur.
Vous savez qu'on a quand même, chaque semaine, on a plus de 20 décisions d'investissement étranger en France. Chaque année, c'est 1300. Ça crée 33 000 emplois. Enfin, c'est des chiffres qui comptent. Et on en a besoin des investisseurs étrangers.
Alors, Jean-David Chamboret, donc, qui nous expliquait justement les débuts du quinquennat Hollande qui avait jeté un petit peu le froid sur un certain nombre d'investisseurs étrangers, notamment à destination de cette tech, cette French tech embryonnaire. Aujourd'hui, en 2018, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on élargisse donc les secteurs stratégiques à l'intelligence artificielle, aux nanotechnologies? Non, je sais.
Alors, on avait réagi très, très fortement. Là, il y avait des annonces du Premier ministre très larges et qui étaient un peu ce que vous venez d'énoncer. Alors que, effectivement, des technologies de base ne sont pas des secteurs et ne sont pas stratégiques suivant l'usage qu'on en fait. Si je fais un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable de classer des documents automatiquement dans une compagnie d'assurance, ça n'a rien de stratégique et je vois pas pourquoi j'irais faire une démarche auprès de Bercy pour savoir si je peux le vendre.
Ce que vous dites, c'est transversal, le numérique, l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle dans la lutte antiterroriste, je peux comprendre très très facilement que c'est d'importance vitale et qu'il y a un contrôle. Donc je crois que toutes les discussions qu'on a eues avec les équipes de Bruno Le Maire, c'est de dire que les secteurs finalement considérés comme stratégiques n'avaient pas forcément à évoluer, mais que par contre des projets de R&D, des projets de petites start-up destinés à ces secteurs stratégiques pouvaient faire l'objet d'une autorisation préalable, parce qu'effectivement on pourrait imaginer dans les sujets de réseaux d'énergie, de smart city, de choses comme ça, des choses très embryonnaires mais qui ont une vraie valeur et d'une importance vitale pour le pays, etc. Et on conteste pas trop ça.
L'intelligence artificielle, non, mais par contre, l'intelligence, quand elle est appliquée à l'énergie,
à des secteurs
oui,
déjà stratégiques,
au nucléaire, oui, etc., etc.
En fait, la question, c'est aussi la procédure. C'est-à-dire, et vous venez de décrire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on définit qu'une entreprise ou.
Pourrait être stratégique.
Quelque chose est stratégique. Que forcément on va bloquer les choses. Donc il y a un enjeu d'avoir une procédure qui est fiable, qui est connue des investisseurs, où on sait à quoi s'attendre, où éventuellement, vous l'avez cité, il y a une procédure de rescrit, où éventuellement il y a une procédure accélérée pour certaines entreprises, mais il est très important que la façon dont on crée cette procédure-là soit respectueuse des investisseurs étrangers et puisse leur faciliter les choses pour ne pas dissuader.
Et sur ce point-là, on avait une demande très particulière et j'ai l'impression qu'elle va être effectivement suivie d'effets positifs dans la loi Pacte, c'est de dire aujourd'hui toutes les démarches doivent être initiées par l'investisseur. Okay. Or en fait, si vous prenez une start-up ou une scale-up qui est en train de chercher un scénario d'adossement ou de financement, vaut mieux qu'elle sache très en amont de ce scénario à quelle sauce elle peut être mangée, est-ce qu'il y a besoin d'une autorisation, est-ce qu'il peut y avoir des... etc. Et que la demande vienne d'elle et non pas de l'investisseur. Parce que sinon, on peut se retrouver dans des situations où un processus capoterait à la fin et le lendemain, si il s'agit de financement, ça veut peut-être dire une faillite, tout simplement, parce que le financeur disparaît, parce qu'on l'autorise pas. Voilà. Et ça, il semblerait que les choses aillent dans le bon sens, et que les cibles, puisque ça s'appelle comme ça dans ce jargon, les cibles pourront elles-mêmes mobiliser Bercy.
C'est une de nos propositions, en tout cas, et on l'a repris dans notre rapport. Et ça va exactement dans le bon sens.
On va continuer dans un instant comment protéger nos fleurs industrielles, mais on parle de cibles. Qui vise actuellement les entreprises, quelles qu'elles soient, les françaises, les allemandes, etc. Qui est dans la ligne de mire du gouvernement, de votre commission? Ce sont les Chinois. On a beaucoup parlé des Chinois jusqu'à présent. En 2016, les flux d'investissement chinois vers l'Europe, 75 milliards d'euros d'acquisition, autant que pendant les 10 dernières années. Voilà, par exemple. Ce sont les Chinois qui sont en ligne de mire.
Mais déjà, aujourd'hui, ils sont assez minoritaires dans les investisseurs étrangers en France. Faut être assez clair sur les statistiques annoncées par Business France. C'est une part très minoritaire. Il faut avoir une vigilance sur des comportements qui peuvent poser problème. Quand vous avez un acteur chinois ou autre qui est éventuellement soutenu par un État derrière, qui lui fait des lignes de crédit, qui lui fait des facilités, qui a des visées militaires ou qui a la possibilité de lui piquer des brevets, etc., il y a un certain nombre de cas qui posent question.
Au Golfe, y compris, Chine, par exemple. Voilà.
Il peut y avoir des cas, et on l'a vu dans nos trois cas d'études, par exemple sur le cas Alcatel, où vous pouvez avoir un acteur chinois qui, par des pratiques commerciales agressives, vient sur un marché européen, est soutenu derrière par un État, et là... ça perturbe l'équilibre concurrentiel et on joue pas avec les mêmes règles. Et c'est pas réciproque. Ouais. C'est-à-dire que si nos investisseurs français faisaient la même chose en Chine, on aurait un sujet. D'où l'intérêt de se dire, il faut être vigilant sur ces cas d'usage spécifiques sur lesquels on a une attention particulière. Mais il faut pas tomber non plus dans une logique anti-chinoise. Pas du tout. Mais,
Jean-Michel, 4 points.
Soyons lucides, sur Alcatel, on s'est tiré la balle dans le pied. Hein. Et Huawei est en avance. Il est en avance au niveau mondial. Sur la 5G, ils sont en avance même par rapport aux Américains. Ce qui inquiète les Américains. Et ce qui amène les Américains à prendre des mesures de rétorsion sur les composants électroniques chinois. Bon, les secteurs stratégiques, ce qui est très important, c'est... Vous avez parlé de l'automobile. L'automobile n'est plus un secteur stratégique en soi, je crois. En revanche, la valeur ajoutée, elle est où? dans l'automobile. Elle est dans les composants, chez les équipementiers. Et demain, elle va être dans l'intelligence.
Tout juste de la voiture.
Donc, c'est ça. Il faut évoluer. Donc, demain, qu'est-ce qui va être stratégique? C'est pas les petites start-up, faut les laisser vivre, faut les laisser se développer.
Même les grosses.
Oui, mais en revanche, ST Microélectronique, par exemple, est une entreprise stratégique. Il se trouve que l'État français et l'État italien sont au capital, et il faut veiller à ce que cette entreprise ait les moyens financiers pour se développer, et c'est des moyens considérables. Parce que vous savez, c'est pas en milliards, c'est en dizaines de milliards d'euros que ça se chiffre. J'ai visité une usine chinoise de BOE. BOE, c'est l'un des leaders mondiaux de tous les écrans. Écran smartphone, vous le connaissez certainement. Smartphone, ils travaillent pour Samsung, Huawei, etc. Ils ont 23% du marché mondial. Eh bien, BOE, qui est une entreprise d'État, a investi exactement en 20 ans 50 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Et ces usines sont, ils ont 11 usines en Chine, sont entièrement automatisées. Et si nous voulons répondre, il faut mettre le paquet. Et là, il y a un problème, effectivement, de financement et de ligne stratégique. Il faut que la collectivité définisse ce qui est important. Alors, pour notre collectivité.
On verra comment peut-on faire plus, mieux justement, pour protéger nos fleurons industriels. On continue dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors comment protéger nos fleurons industriels? Est-ce que la France sait bien se protéger, justement, protéger nos secteurs stratégiques? Ah, question, qu'est-ce qu'on met justement dans ces secteurs stratégiques? On est notamment avec le député Guillaume Kasbarian, donc rapporteur de la commission d'enquête sur la politique industrielle de la France. L'idée, c'est peut-être d'élargir justement eh bien le nombre des secteurs stratégiques à l'intelligence artificielle, aux nanotechnologies. Non, nous disait tout à l'heure Jean-David Chamboret, donc au président de France Digital. Est-ce que la France sait se protéger? Écoutez Philippe Varin. Philippe Varin, il est président de France Industrie. On le retrouvera ce week-end dans le défi ETI sur BFM Business. Hein, mais j'en ai extrait un petit morceau. Que nous disait-il, Philippe Varin? Il faut effectivement renforcer notre protection et mettre en place des outils qui existent déjà, par exemple, aux États-Unis. On écoute Philippe Varin, on revient juste après.
Faisons les choses très simples. Les États-Unis ont un organisme d'examen des investissements étrangers pour autoriser ces investissements. Il s'appelle le CFIUS aux États-Unis. Il n'y a pas, je dirais, un tel organisme en Europe. Donc je pense qu'il est important que nous en ayons un et que la politique commerciale européenne tienne compte de cet organisme à mettre en place.
Donc il faut étendre le contrôle des investissements étrangers à de nouveaux secteurs qui pourraient être lesquels, par exemple?
Aux États-Unis, il y a une commission qui fait ça et qui juge si c'est important ou non de le faire dans tous les secteurs stratégiques. Donc il faut faire la même chose.
Voilà, Philippe Varin, qu'on trouvera donc dans le défi ETI samedi et dimanche sur BFM Business. Oui, il a parlé des États-Unis, le fameux CFIUS dont vous parliez tout à l'heure, Guillaume Kasbarian. La plupart des grands pays ont des dispositifs similaires, se posent ces questions. En Europe, par exemple, on se souvient comment il y a deux mois, Geely voulait prendre le contrôle de Mercedes. Il y a eu les Chinois aussi, il y a eu cette affaire. Non, c'est pas ça, non? Je me suis trompé.
Kuka peut-être.
Il y a eu Kuka aussi, mais Geely, c'est le Chinois qui voulait prendre la...
Geely.
Daimler et Mercedes, oui, c'est ça. Donc Kuka, en effet, vous l'avez dit. Pirelli, donc sous pavillon chinois. Chaque pays envisage un propre dispositif de protection. Ils sont déjà là. Guillaume Kasbarian.
Alors, on ne peut pas dire qu'aux États-Unis qu'il y a un processus de contrôle. Hein. On en a parlé tout à l'heure, on en a en France et il marche. On a une centaine d'entreprises, enfin d'investisseurs qui sont contrôlés chaque année en France. En revanche, effectivement, il y a un sujet au niveau européen. Cette question-là, elle doit être posée au niveau européen.
Il doit y avoir une réaction commune européenne.
Alors, la Commission européenne, depuis septembre, s'est penchée sur le sujet et a proposé aux États membres de réfléchir individuellement et ensuite collectivement autour de cette fameuse question de quels sont nos intérêts stratégiques et comment ensuite gérer les entreprises stratégiques. C'est une démarche qui est très intéressante, que nous, au niveau de l'Assemblée nationale et de notre commission d'enquête, on pousse, on souhaite soutenir, qu'on continuera à soutenir, parce que on peut pas rester juste les Français au sein des blocs économiques mondiaux. Je veux dire, il faut raisonner à un niveau très européen. Et c'est actuellement une réflexion qui est en cours au niveau européen. Il faut qu'on joue notre rôle de parlementaire et qu'on pousse cette idée-là, qu'on la fasse passer, parce que c'est un sujet important pour nos champions industriels européens.
Le rôle de l'État, quel doit-il être? Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business, vous nous disiez il y a quelques instants comment certains premiers ministres s'étaient un petit peu énervés à une époque de Villepin, mais pas que lui, par exemple, au moment d'une tentative, en tout cas de rumeur d'OPA, donc, et bien de PepsiCo sur Danone, c'était en 2005. Bon, très bien, on voit le politique qui souvent dégaine un petit peu plus vite, qui voit le mal où il n'est pas. Clairement, l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit mettre en place des outils? Est-ce qu'il doit recentrer le rôle de l'État? C'est quoi?
C'est les outils, ça sert toujours, mais aucune entreprise ne s'érige contre un État. Donc s'il n'y a pas du moment où un État dit non, une entreprise se retire. Si le gouvernement...
Pardon, ça marche toujours comme ça? Un grand patron non, mais ne va...
Si François Hollande, président de la République, n'avait pas souhaité que General Electric rachète Alstom, l'opération ne se serait pas faite. Point barre. Enfin, après, on peut, évidemment, si vous êtes au capital, c'est mieux. Si, mais en soi, si la France ne veut pas que telle ou telle entreprise rachète, entre guillemets, un fleuron français, ça ne se fait pas. Si Alstom s'est fait, le seul qui s'y est opposé, c'est Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque, ne s'y est pas opposé, on le sait. François Hollande a fait du François Hollande, donc il a dit oui, mais non, peut-être. Bon, finalement, il s'est couché. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû bloquer. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. Sur le cas d'Alcatel, c'est la même chose. Alcatel était une entreprise qui allait très, très mal. Tout le monde le savait très, très bien. Ça regorgeait d'articles de journaux. Michel Combes, qui était à tête d'Alcatel à l'époque, avait eu une seule et unique stratégie, c'était virer 10 000 personnes pour redresser l'entreprise. Donc, on ne peut pas dire que c'était un grand visionnaire. Il l'a fait dans beaucoup de groupes, on les connaît bien. Et puis, il a prévenu d'ailleurs Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, deux jours avant. Et c'est d'ailleurs ça qui a provoqué la colère d'Arnaud Montebourg quand Alstom était racheté. C'est finalement de ne pas être mis dans la boucle. L'État réagit. Donc, il faut que l'État se pose des questions de, un, où est la ligne rouge? Et deux, comment anticiper? En fait, il faut des vraies politiques industrielles.
Le Alstom, parlons-en quelques minutes juste, Jean-Michel, 4 points, vous aviez signé donc Alstom, scandale d'État. Est-ce qu'il fallait vendre Alstom? Est-ce qu'Alstom était affaibli? C'était quoi les véritables ventes, les véritables raisons de vente de Alstom à General Electric pour la branche énergie justement? Parce que là on a entendu tout et beaucoup de choses.
Elles sont multiples les raisons, il n'y a pas une raison. Il y a un faisceau de raisons qui font qu'à un moment donné... Il faut essayer de se mettre dans la tête de Patrick Cron. À un moment donné, Patrick Cron ne devait plus beaucoup dormir parce qu'il avait un actionnaire qui voulait sortir, en l'occurrence Bouygues, qui voulait vendre ses 30%. Il avait un marché qui commençait à devenir un peu plus difficile. Il avait des acheteurs français, je pense à EDF et à SNCF, avec lesquels il n'était pas dans les meilleurs termes parce que le caractère de M. Cron était bien connu, un caractère trempé. Donc il y avait quelques problèmes de relationnel. Et il y avait cette affaire du département de la justice, c'est-à-dire de la plainte pour corruption, qui depuis 2010 avait été ouverte par les Américains au nom de l'extraterritorialité du droit américain. Et ça, c'est un phénomène très important, et je crois qu'on a découvert ce phénomène à l'occasion de l'opération Alstom. Bon, il y avait eu quelques cas précédents, il y avait eu Technip, il y avait eu Total qui avait été condamné, il y avait eu Siemens qui avait été condamné par les Américains, mais on étouffait parce que les entreprises elles-mêmes n'aimaient pas parler de ça.
Or, affaire avec... de corruption d'ailleurs qui a conduit un de ses cadres d'Alstom en prison.
Oui, qui est toujours et qui a été lâché par tout le monde, ce qui n'est pas du meilleur effet. Pierucci. Mmh. C'est le dampiste, il paye alors qu'il n'y est pour rien.
Alors, est-ce qu'il y a eu des pressions justement que Patrick Cron quelque part, y a-t-il eu des...
Non, mais c'est des pressions psychologiques. Quand vous avez effectivement un certain nombre de facteurs qui font que vous avez plusieurs problèmes, vous cherchez à les régler tous en même temps. Et c'est vrai que la solution de General Electric permettait, pour lui, de régler tous ces problèmes en même temps. Alors ensuite, est-ce qu'il fallait faire avec General Electric? Je pense qu'il y avait sans doute quelque chose à faire avec General Electric, mais peut-être pas exactement ce qu'on a fait. Il y avait Alstom, il y avait des problèmes sur les turbines à gaz, et c'est vrai que les turbines à gaz auraient pu être cédées à General Electric plutôt qu'à Siemens, parce qu'il y avait eu un problème de position dominante sur le marché européen. Mais pour le nucléaire, pour l'hydraulique, ça pose des problèmes. Et aussi pour les activités dans le domaine militaire. Parce que savez-vous, par exemple, que les catapultes du Charles de Gaulle sont fabriquées par Alstom?
Ah, très bien.
Oui. Et aussi un certain nombre de réacteurs qui équipent notre flotte. Bon, ça, ce sont des domaines quand même stratégiques. Et
Guillaume Kasbarian, vous avez enquêté justement sur cette affaire Alstom qui date de 2014. Vous avez auditionné un certain nombre de personnalités, notamment Arnaud Montebourg. Quel rôle vous aviez en travaillant sur le dossier Alstom, plutôt d'enquêteur, de médecin, de procureur? Qu'est-ce que vous avez conclu sur l'attitude de l'État? Je cite votre partenaire, je sais... n'êtes pas forcément d'accord avec lui, le député du même département de l'Eure-et-Loire, Olivier Marleix, lui, Les Républicains, qui dénonce les manquements de l'État. Je le cite, il dénonce un laisser-faire de l'État qui, par cécité, imprévision et entre-soi, a failli à protéger ses intérêts fondamentaux. Vous, qu'est-ce que vous dites?
Ouais, ce que je dis... Alors déjà, l'objectif d'une commission d'enquête, c'est pas d'être un tribunal ou d'être procureur. C'est d'enquêter
de faire émerger la vérité, une vérité, avec des faits, avec des éléments factuels. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que l'État est écouté quand il dit non? Et vous avez dit oui, l'État, s'il le voulait, pourrait bloquer. Bien évidemment que l'État peut toujours bloquer. Bien évidemment que l'État peut dire non. La question, c'est celle des alternatives. C'est de se dire, économiquement, y avait-il des solutions alternatives? Et nous, au cours de notre enquête, quels que soient les désaccords qu'on puisse avoir, nous avons montré, nous avons étudié, et nous disons très clairement qu'à l'époque, Alstom était dans une situation difficile, sur un marché qui était pas en super forme.
Il n'avait pas une taille critique.
Qui avait un réel risque de trésorerie, que toutes les études à l'époque prédisaient un problème de trésorerie assez important avec un problème de cash. Donc, on peut toujours dire non, comme ça avait été le cas d'ailleurs sur Dailymotion. On peut toujours montrer les muscles et faire cocorico.
Mais quoi,
la question, c'est quelles sont les alternatives industrielles pour préserver les emplois. Parce que s'il s'agit de dire non, mais ensuite laisser dépérir une entreprise et aboutir à un plan social massif, je suis pas d'accord, parce que je pense que ce qui est important, c'est l'emploi industriel.
On va y revenir simplement sur les alternatives, parce que là, il faut qu'on avance. Hein. C'est vrai que Patrick Cron explique que sinon, il y aurait eu des plans sociaux. L'attitude de l'État, qui est responsable? C'est Montebourg. Mais, est-ce que c'était au niveau de l'Élysée, avec un certain Emmanuel Macron à l'époque?
Mais je pense que qui est responsable, coupable, etc. Je pense, enfin, écoutez, on n'est pas sur un tribunal, encore une fois. Il y a une opération qui a été réalisée. Nous, ce que nous disons, c'est qu'à l'époque, Alstom était en difficulté. Ne pouvait pas rester seul, ne pouvait pas rester sans rien faire. Il fallait qu'il s'adosse à un partenaire d'envergure mondiale. Et G était la seule option sur la table. Et pourtant, les efforts des politiques pour trouver des alternatives ont été très importants. Mais il n'y en a pas eu d'alternatives. Donc au final, je veux bien qu'il y ait un désir de catharsis collectif et un désir de trouver des boucs émissaires et des responsables. Mais in fine, moi j'aimerais bien qu'on parle des solutions et des alternatives.
Alors justement,
parce qu'on n'en parle jamais.
Les alternatives, ça tombe bien. Jean-David Chamboredon, Mathieu Pechberti, face aux appétits étrangers justement. Est-ce que la France a les moyens de lutter, de proposer une alternative avec de belles entreprises solides pour prendre la suite? Est-ce qu'il y a assez de capital aussi? Jean-David Chamboredon.
Je pense que si on compare justement les États-Unis avec son CFIUS et la France, je pense qu'on a intérêt à rester très très modeste et très très discret dans notre protectionnisme ou dans la défense de nos intérêts stratégiques. Parce que la réalité, et je rejoins tout à fait le point qui a été fait, les alternatives, lorsqu'il s'agit d'adosser une entreprise, dans la technologie par exemple, les alternatives françaises à une solution américaine, une solution allemande, une solution japonaise, il n'y en a pas, souvent. D'accord ? Il n'y en a tout simplement pas. On était très en avance sur la robotique, on a vendu un de nos joyaux qui s'appelait Aldébaran aux Japonais. Il n'y avait pas d'acheteurs français. Mmh. Bon. Et quand il s'agit de financer les entreprises, on s'aperçoit dans notre secteur que 60% des tours de table de plus de 10 millions d'euros sont lidés par des investisseurs anglo-saxons.
Vous échappe. Ouais.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas de capital, parce que l'épargne des Français, elle est dans l'immobilier, elle est dans l'assurance vie, elle est dans les bons du trésor, elle n'est pas dans l'économie. Donc, je pense qu'on a intérêt à pas jouer les gros bras, pas à être provocant, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens.
On sait pas.
Tout simplement. Ouais, et défendons ce qui est vraiment stratégique, et puis laissons l'économie mondiale capitalisée fonctionner comme elle fonctionne. Aux États-Unis, les alternatives de financement ou d'adossement industriel sont multiples.
Mathieu Pechberti.
Non, mais clairement, on n'a pas les moyens de lutter coincé entre deux grandes puissances économiques mondiales, que sont les États-Unis et la Chine. Vous voyez que la vente d'Alstom ferroviaire acier mince a aussi fait couler quand même un petit peu d'encre. Et en même temps, qu'est-ce qu'on aurait dit si Alstom avait été racheté par les Canadiens? La France, avec 65 millions d'habitants, ne peut pas lutter contre des concurrents chinois ou américains. Et quand on essaie de créer des grands groupes étrangers, il y a toujours des réactions un petit peu épidermiques. Donc, en fait, si vous voulez, on peut pas avoir... Tant qu'il n'y a pas d'Europe, entre guillemets, vraiment économiquement consolidée...
D'où l'intérêt d'une solution européenne, comme le disait tout à l'heure Monsieur Kasbarian, qui est député. En conclusion, on aura des entreprises de moins en moins françaises. Alors, tiens, Jean-Michel, 4 points.
Non, mais si on oriente le capital vers l'industrie et l'industrie de demain, on aura des entreprises qui resteront françaises, mais qui évolueront. Ensuite... il faut pas se priver de nouer des alliances ponctuelles. On peut aussi en faire avec des Chinois sur des sujets bien spécifiques. Hein. Il faut pas se priver.
On l'a vu pour l'automobile notamment.
Exactement, avec Dongfeng.
Par exemple, pour le sauvetage de PSA sous Montebourg d'ailleurs.
Très pragmatique.
Jean-David Chamboredon.
Moi, je crois que se focaliser sur le drapeau que porte l'actionnaire ou les actionnaires, c'est un faux débat.
Bien sûr.
Le vrai endroit, c'est où est la R&D, où sont les équipes produits, où
la valeur ajoutée,
la valeur innovation, etc., etc. Donc, si je prends mon secteur tout à fait, si on vend les entreprises quand elles sont trop petites, le risque que finalement les ressources clés soient aspirées, envoyées à Seattle ou à San Francisco est très élevé. Si on vend les entreprises quand elles sont plus grosses, et ben finalement on a risque d'avoir des actionnaires américains ou japonais, mais qui vont dire je suis très content d'avoir trois personnes en R&D à Lyon ou à Paris, etc.
Et l'économie française, des bons collaborateurs français, des bons talents français, bien entendu. Oui, mais c'est souvent passionnel. Mathieu Pechberti, vous le rappeliez tout à l'heure, on va vendre Alstom. Vous avez vu STX, on le vendait aux Italiens. C'est horrible, oui, les Italiens.
Non, mais il y a du passionnel sur la, entre guillemets, la vieille industrie. Et oui, ça, en France, on a beaucoup de mal avec ça. Vous voyez, par exemple, l'Allemagne est très forte dans l'industrie, et nous, on envie les Allemands, mais les Allemands sont de piètres banquiers, et nous, on a des banques très puissantes. Voilà, il faut aussi accepter que le monde change, qu'on a des spécialisations.
On a des forces, des faiblesses.
Et d'ailleurs, c'est le principe de l'économie libérale. Il faut se spécialiser pour être bon. Et malheureusement, en France, l'industrie française est en déclin.
C'est la vie des affaires. On conclut avec vous, rapidement. Et Guillaume Casbarian.
Vous avez parlé du cas STX et je vois les images à la télé. C'est un bon exemple et je finirai avec une citation d'un responsable syndical de STX que justement on a auditionné et qui nous a dit une chose très intéressante. Peu importe la couleur de passeport de mon actionnaire et de mon investisseur, ce qui compte, c'est l'emploi industriel en France et la stratégie de l'entreprise. Si on a des investisseurs, quel que soit leur passeport et leur nationalité, qui sont prêts à contribuer à l'emploi industriel en France, alors on doit travailler avec eux pour une industrie conquérante.
Très bien, merci à tous. Guillaume Casbarian, député La République En Marche du département de l'Eure-et-Loire. Mathieu Pechberti, qui a ses entrées dans les grands groupes industriels. Il sait tout, il vous raconte tout sur BFM Business. Jean-David Chamboret, donc, au président de France Digital. Et Jean-Michel Quatrepoint, auteur de Alstom, scandale d'État. Voilà, le week-end arrive pour en profiter. Merci à tous, on revient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.